Studio Tamani, voici nos informations en français.
8h à Bamako et à Monimpe-Bougou dans la région de Ségou. Vous êtes à l'écoute de Studio Tamani. Mesdames, messieurs, bonjour, voici le journal. Plusieurs nouvelles localités de la région de Ségou, au centre du Mali, sont sous la coupe des présumés djihadistes. Ces derniers imposent aux populations la loi islamique ou charia. Les habitants de ces villages crient leur ras-le-bol. Retour prochain de l'État dans la zone de l'Iptako-Gourma. Le gouvernement et ses partenaires vont mobiliser 165 milliards de francs CFA afin de permettre le retour des autorités et des services sociaux de base dans cette partie du pays. La rénovation du stade du 26 mars de Bamako n'est toujours pas finie alors que le ministre des Sports l'avait annoncé pour fin septembre. Les travaux sont aujourd'hui à 85% d'exécution. Les raisons de ce retard dans ce journal qui vous sera présenté par Sekou Gadjigo, mise en onde Mamadou Ouattara. Mesdames, Messieurs, bienvenue. La situation sécuritaire ne s'améliore pas dans la région de Ségou, au centre du pays. Bien au contraire, de nouvelles localités dans le cercle de Massina et dans la commune de Diabali se vident de leur population sous la menace djihadiste. Se soumettre aux lois des terroristes ou fuir vers d'autres localités sont les seuls choix laissés aux habitants et ces derniers dénoncent la cherté de la vie sur place. Le point avec Elisabeth Ouellette Mohamed.
Il s'agit notamment des villages de Monepebougou, Tougou, Sougouba, Kolongo, Maninje, Ntoula et Goumelchilonji. Les rares habitants restés sur place ont été obligés de se soumettre aux règles imposées par des présumés djihadistes, selon des sources locales. Le port obligatoire du voile par les femmes et l'interdiction de toute activité récréative sont devenues les nouvelles lois dans ces localités, regrette-t-elle. Cette situation a engendré plusieurs conséquences, notamment une cherté de la vie entre autres, indiquent certains habitants sous couvert d'anonymat. En plus, ni les petits commerces, ni les travaux champêtres ne sont plus possibles dans ces localités, déplore-t-il. Il y a quelques jours, dans le cercle de Youarou, des hommes armés ont fait des incursions dans plusieurs localités. De sources locales, ils ont détruit des mausolées et les installations de téléphonie mobile.
C'est la précarité totale, nous sommes en voie de perdre tout espoir. C'est ainsi que se lamente cet habitant de la localité de Massina ayant requis l'anonymat. Pour lui, au-delà de l'insécurité, c'est la cherté de la vie qui prévaut sur place. Il est joint au téléphone par Elisabeth Ouellette Mohamed.
Les populations se sont déplacées à cause de l'insécurité.
Nous sommes confrontés à beaucoup de difficultés. Les petits commerces qui facilitaient les échanges entre les populations, les vendeurs ambulants ne font plus leur activité. La viande, pratiquement, il n'y en a plus. C'est cher. Les poissons également, c'est comme ça, puisque les pêcheurs partaient dans les fleuves, puis ils revenaient dans les villages pour vendre. Donc tout ça là, c'est arrêté à cause de l'insécurité. C'est la précarité totale, quoi.
8h03 à Massina, parlant toujours d'insécurité, 5 morts, 4 blessés et 11 porte-chars brûlés. C'est le bilan d'une attaque terroriste perpétrée hier contre un convoi d'une entreprise minière sécurisée par les forces armées maliennes sur l'axe Kaï-Bamako. Selon des sources militaires, l'attaque s'est produite entre Sebabougou et Kouala, à 188 km de Bamako. Vous pouvez réagir donc à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. 5 personnalités, dont 4 officiers de l'armée malienne, ont été placés sous mandat de dépôt lundi dernier par le pôle économique et financier. C'est dans le cadre de l'affaire de l'achat des équipements militaires. Les acteurs des droits de l'homme au Mali disent suivre de près ces événements. Ils estiment que certains principes en matière de droits fondamentaux doivent être respectés dans la conduite de ces procédures judiciaires. À cet effet, la Commission nationale des droits de l'homme dénonce une surpopulation carcérale dans un contexte où les mandats de dépôt se multiplient. Akibou Bouaré, président de la CNDH, est joint au téléphone par Kwan Diara.
En matière de droits de l'homme, nous sommes constants dans la démarche. Nous nous disons que la lutte contre l'impunité doit se mener dans le strict respect des droits fondamentaux. Donc, de mon point de vue, en tant que défenseur des droits de l'homme, l'efficacité de la justice ne se mesure pas à l'aune de la quantité de mandats de dépôt émis. Il y a un certain nombre de principes qui doivent être respectés dans la conduite des procédures judiciaires. Nous, nous veillons au respect plutôt de ce principe. Nous commençons par le monitoring des lieux de privation de liberté. Nous avons fait le constat amer qu'il y a une surpopulation carcérale. Donc, en multipliant les mandats de dépôt, on ne fait qu'aggraver cette violation des droits de l'homme.
Aguibou Bouari, président de la CNDH, il était joint au téléphone par Kwan Diarra. Je vous le disais dans les titres, le gouvernement et ses partenaires s'activent pour permettre le retour de l'État et des services sociaux de base dans la zone du Liptako-Gourma. 165 milliards de francs CFA, c'est le montant qui sera mobilisé pour les trois prochaines années. Le programme des Nations Unies pour le développement PNUD s'est proposé de porter la phase de pilotage du projet pendant 18 mois. L'information a été donnée hier mardi par le ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau. C'était au cours de la première réunion du Comité national de pilotage de la facilité de stabilisation du Liptako-Gourma. Le reportage de Sali Sissoko.
Pour le gouverneur du Liptako-Gourma du Mali, ce projet s'annonce bien pour cette partie du pays devenue l'épicentre de l'insécurité. Il estime que c'est un bon avant-projet de paix et de lutte contre le terrorisme.
Notre région est une partie centrale du Liptako-Gourma.
Il sera profitable effectivement pour la région d'Ouaz.
Principalement le cercle du Koro. Les forces de défense et de sécurité seront déployées. L'administration va suivre, les services sociaux de base vont suivre. Va permettre de récupérer l'espace qu'on a perdu au profit des groupes djihadistes terroristes et des bandits armés.
Afin de combler l'attente de ses autorités, le Mali et ses partenaires rassurent que toutes les dispositions seront prises pour mener à bien ce projet. Lamine Seydou Traoré, ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau.
Faire en sorte que les populations déplacées de cette zone puissent retourner dans leur zone de vie. Le projet vise à mobiliser 300 millions de dollars, soit près de 165 milliards de francs CFA, consacrés entièrement à des investissements en matière de sécurité, en matière de développement, en matière de défense, pour pouvoir vraiment stabiliser cette zone des trois frontières.
En attendant, l'insécurité ne faiblit toujours pas au centre et au nord du pays.
8h07 à 100, la ville est de plus en plus sale. Des ordures sont versées dans les rues au quotidien par la population. Plusieurs habitants expliquent que cette situation découle du fait que la ville manque de dépôt final pour les déchets. En attendant une solution définitive, des jeunes du projet Média Sahel ont dénoncé cette situation et organisé une journée de salubrité la semaine dernière. Les autorités communales de Sang, de leur côté, trouvent que les responsabilités sont partagées sur la question. Le récit de notre correspondant depuis Sang, Irene Diarra.
À 100, difficile de se promener sans voir des tas d'ordures dans les rues. Conscients de cette situation, des jeunes du projet Média Sahel ont décidé d'assainir la ville. Pour eux, la propriété de la ville ne préoccupe personne. Fanta Mariko, du projet Média Sahel.
C'est d'abord un acte citoyen que nous voulons poser, motiver les autres à y participer. L'objectif même du projet, c'est inclure la jeunesse et les médias dans le développement des différentes localités.
Les autorités communales reconnaissent que la ville de Sang est sale, tout en affirmant que des efforts ont été consentis par la mairie. Elles invitent chacun à jouer sa partition pour la propriété de la ville. Gaussou Traoré, maire chargé de l'assainissement de la commune de Sang.
L'assainissement, c'est l'affaire de la mairie. Mais ce qui est clair, la mairie seule ne peut pas tout faire. Bon, s'il y a vraiment un groupe de jeunes qui vient pour aider la mairie, je pense que c'est une très bonne chose. Il y a certains jeunes qui ont beaucoup fait, surtout le curage des fossés.
En attendant que la maire trouve une solution définitive, les jeunes du projet entendent multiplier de telles initiatives pour inciter l'implication de toute la population. De Sang, Irene Diarra pour Studio Tamani.
Retour ici à... Les travaux de rénovation du stade du 26 mars ne sont toujours pas finis. Le directeur adjoint du stade affirme qu'ils sont à 85% d'exécution. Selon lui, ce retard est dû aux exigences de la CAF et de la FIFA. Et pourtant, lors d'une visite des chantiers, le ministre des Sports annonçait la fin des travaux pour fin septembre. Cette rénovation fait suite à l'annonce de la non-homologation du stade du 26 mars par la Confédération africaine de football CAF. Souleymane Touré, directeur adjoint du stade du 26 mars, est au micro de Awa Berti.
Tout ce qui était prévu en termes de toilettes, nous sommes là-dessus. Ce qui était pour les différentes salles, les boxes, je pense que l'essentiel est fait. Le deuxième tableau d'affichage est en fait le crépissage. Les gens pensent que ça va être un truc qui prendra fin de sitôt et que les matchs qui doivent suivre la Coupe du Mali puissent se faire chez nous. Je ne pense pas que ce soit le cas. Si nous voulons avoir un stade prêt à la compétition, un stade prêt avec les exigences de la CAF, un stade prêt avec les exigences de la FIFA, il nous faut au moins un minimum de 2 mois. Et les exigences de la FIFA demandent à ce que tous les gradins soient munis de places assises en chaise. Et c'est lent, il faut que tout soit fini pour qu'on puisse prétendre jouer un match de Coupe du Monde chez nous.
Studio Tamani, financé par les gouvernements de la Suède, du Danemark, de la Suisse, de la République tchèque et par l'Union européenne.
Actualité à l'intérieur du pays, la mobilisation des ressources financières des collectivités des régions de Koulikoro, Djoila et Nara est au cœur d'un forum à Fana. L'objectif est de susciter un cadre d'échange sur la mobilisation des ressources internes et externes en vue de favoriser la mutualisation des expériences et d'aboutir à une amélioration du volume des recettes. Plus d'une cinquantaine d'acteurs prennent part à ce forum de 2 jours. Il est organisé par le Conseil régional de Koulikoro en collaboration avec le projet d'appui à la décentralisation et à la régionalisation. Les traditionnelles journées diocésaines ont débuté hier à Sens. Une centaine de personnes, dont des prêtres, des religieuses et des laïcs des cercles de Tomignan, Blas et de Sens, participent à la rencontre. Selon le président de l'équipe de formation, l'objectif est d'évaluer l'année pastorale 2020-2021 et de réfléchir sur la célébration du centenaire de la paroisse de Mandiakoui et de l'évangélisation du diocèse de Sens. La rencontre va durer 4 jours. Et c'est ce qui met fin donc à ce journal qui vous a été présenté par Sekou Gadjigo. La mise en onde est assurée par Mamadou Ouattara. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez réécouter ces informations sur notre site studiotamani.org ou en appelant au 37 321 sur la plateforme Viamo. La France a rejeté ce lundi 28 septembre les accusations faites par le Premier ministre Choguel Kokala Maïga à son encontre. Celui-ci a dénoncé samedi dernier à l'ONU que le Mali a été abandonné par la France en plein vol suite à la réconfiguration de l'opération Barkhane. Va-t-on vers une tension diplomatique entre le Mali et la France? L'analyste politique Cheikh Omar Doumbia affirme qu'une telle situation n'arrange ni le Mali ni la France. Selon lui, elle peut fortifier la position des groupes terroristes dans le Sahel. Cheikh Omar Doumbia, analyste politique, est joint par Aïssa Tadjara.
On se rend rapidement compte qu'il y a d'un côté une asymétrie d'informations. Les faits évoqués par l'État français comme justificatifs par rapport à ces démentis relèvent d'actions ou de rencontres qui ont eu lieu avant que le Premier ministre Choguel Kokala Maïga prenne les rênes de la primature. Donc il y a une forte possibilité que le Premier ministre ait soit été sous-informé ou vu la façon dont s'est terminé le siège de Mokhtar Wan à la primature, les informations n'ont pas été correctement transmises.
Est-ce qu'on risque d'assister à une brouille diplomatique entre la France et le Mali?
Je pense que nous sommes déjà dans cette brouille diplomatique. Ce qui est primordial, c'est réellement de réussir à empêcher cette brouille de s'étendre sur des axes qui nous sont combien stratégiques.
Aujourd'hui, est-ce que les deux pays ont intérêt d'avoir des relations tendues?
Nous avons connu des difficultés et ces difficultés nous ont conduit à faire appel à des partenaires et à nous engager à respecter des conditions. Ces besoins n'ont pas changé. Elles se sont beaucoup plus élevées et il faut que nous tenions compte de nos besoins dans notre démarche. La France aussi n'a pas intérêt à ce que sa présence au Mali se traduise ou se finisse par un échec, parce que la présence au Mali est aussi à la faveur de sa politique sécuritaire et de défense et de lutte contre le terrorisme dans le Sahel.
Alors, M. Doumbia, si cette situation persistait, est-ce que ça peut impacter la situation sécuritaire au Sahel?
Oh, Oh, bien sûr. Une chose est sûre, la possibilité de la présence de l'entreprise de sécurité privée russe qui a provoqué toute cette escalade ne peut forcément pas remplacer les près de 5000 hommes de Barkhane ou de Takuba qui sont sur le sol malien. Et aussi, les situations de ce type provoquent des agitations du côté des groupes armés et des groupes terroristes qui démontrent réellement une certaine fragilité des forces sur le terrain. Et ça, c'est favorable aux groupes armés.
La France dit que Cheguel Kokala Maïga cherche à satisfaire ses ambitions politiques. Est-ce que la France veut tenir Cheguel pour responsable des problèmes entre les deux pays?
Déjà, il y a eu un changement drastique et extrêmement rapide à partir du moment où Cheguel a pris les rênes de la primature. Ses alliés politiques ici sur le sol malien le porteraient comme un individu qui est capable d'apporter ce type de changement. Donc forcément, il y a une démarche politique qui accompagne les faits et gestes du Premier ministre Cheguel. La France n'aurait pas forcément tort de l'avoir mentionné. Maintenant, est-ce que nous avons assez d'éléments pour comprendre clairement le plan du Premier ministre Cheguel? Je ne pense pas.